Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
J'ai compté, tout le monde est là. Bonjour les amis, comment allez-vous?
Présent.
Magnifique. Bienvenue dans RTL vous régale, bon début de week-end. Merci d'écouter la radio, merci d'écouter RTL, parce qu'en plus on fête le nouvel an lunaire aujourd'hui. On va vous concocter un menu asiatique typiquement de circonstances. Mais avant toute chose, voici les infos de la semaine. Louise Petit-Renaud, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Ben, on va commencer par fêter un anniversaire et pas n'importe lequel. On va parler des 10 ans de l'IGP de la saucisse de Montbéliard. Ah. Vous savez, vous connaissez ma passion absolue pour les saucisses de Montbéliard. Alors pour fêter ça, je voulais vous donner quelques chiffres. C'est quand même 42% de volume vendu en plus depuis l'obtention de l'IGP. 32,2 millions de saucisses de Montbéliard sont consommées mais chaque année pour 22 fabricants. Et attention, l'info la plus importante, une saucisse de Montbéliard consommée en France toutes les minutes. Moi, je dis joyeux anniversaire et vive la saucisse de Montbéliard.
Elle était avec nous au Sierra la semaine dernière, juste avant les Bocuse d'or. Naïs Pirolet qui représentait la France. Alors bon, même si elle n'a pas gagné,
le cinquième quand même.
Voilà,
hein,
son menu revisité autour de la courge, de l'entrée au dessert, s'est vu décerner le prix du meilleur menu pour les enfants et sera bientôt servi dans les cantines des écoliers lyonnais. En tout cas, on s'en inspirera largement. Plus aucune excuse pour dire aujourd'hui c'était pas bon à la cantine.
Il fait froid, vous avez remarqué.
Je ne vous le cache pas.
Les temps sont difficiles, vous avez remarqué. Et toutes les idées pour se réchauffer à moindre frais sont à prendre. Dans Femme Actuelle, on explique comment se réchauffer en misant sur les aliments anti-froid, ceux qui vont entretenir le feu intérieur de l'organisme, comme défini par l'Ayurveda indien. Il faut privilégier les lentilles, les betteraves, les navets, les carottes, les pommes, les poires, les pruneaux. C'est donc plutôt simple à faire. L'Inde fait aussi la part belle aux épices dans la cuisine. On le sait toujours pour le feu intérieur. Eh bien, il y a des épices qui vous donnent un coup de fouet à l'organisme et qui contribuent à le réchauffer durablement, comme le curcuma, la cannelle, le clou de girofle, le poivre ou la poudre de chili. Partant de là, plus de froid.
Allez, c'est parti pour notre régalade du samedi matin. Elle nous transporte aujourd'hui en Asie du Sud-Est, puisque nous allons fêter le nouvel an lunaire. Cette année, on célèbre le lapin. Je ne sais pas si on aura au menu, mais on va voir ça dans quelques instants.
Non,
avec
non,
Diana Chao, alias Mamali. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL.
Merci beaucoup.
Je suis ravie de vous recevoir.
Eh ben moi, je suis ravie d'être
et
là.
Je ne suis pas le seul dans cette émission à être en joie, parce qu'on adore la cuisine chinoise et je ne vous sers pas la soupe en disant ça. Enfin, je ne vous sers pas le nid d'hirondelle ou tout ce que vous voulez. Ah, est-ce que c'est chinois d'ailleurs ça?
Oui, authentique.
On va tordre le cou à quelques plats chinois quand même aujourd'hui.
Allez, on veut la recette des raviolis.
Dont on considère depuis longtemps qu'ils sont chinois, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Vous aurez rendez-vous tout à l'heure avec le défi frigo. Inscrivez-vous au 3210 pour nous proposer votre ingrédient du jour. En jeu, une semaine de vacances au ski pour 4 personnes dans une résidence Néméa. Je vous souhaite bonne chance, le 3210 vous attend. On parle de riz avec Jean-Seb dans un instant, évidemment, c'est un incontournable. On va vous expliquer comment on le cuit, comment on le prépare, parce que on n'est peut-être pas toujours au fait. On y arrive dans un instant. C'est RTL vous régale, à tout de suite les copains.
Ne bougez pas, dans un instant, RTL vous régale revient. RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Et Diana Chao qui est notre invitée. Je vais vous demander d'être très attentive à ce qui va se dire. Parce qu'on va parler de riz avec Jean-Sébastien. Le riz qui fait partie de notre alimentation courante. Est-ce qu'on en mange depuis longtemps d'ailleurs?
On en parle, en tout cas depuis très longtemps. Rien que dans l'histoire de France. Je vous prends un exemple. En 1248, Saint-Louis part en croisade et sur le chemin d'Aigues-Mortes, il fait une pause dans une abbaye à Sens. On lit dans les archives de cette abbaye que le roi mangea des fèves, du pain, du vin, des poissons, des tourtes d'anguilles, des fruits et on lui a servi du riz au lait fait avec du lait d'amande et de la cannelle. Pourquoi le lait d'amande? Parce que c'était un jour maigre. L'histoire du riz, en fait, elle remonte à plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Sa culture, elle se faisait principalement en Chine, mais également en Inde, au Sri Lanka, avant d'arriver en Europe. Et puis ensuite, il a migré aux Amériques.
Avant de migrer, il vient d'où ce riz, Louise?
Il vient un peu de partout. Alors pour vous repérer quand vous voulez acheter du riz, il y a plusieurs variétés, il y en a plus de 2000. variétés de riz. Alors, les trois variétés les principales sont le riz long grain, le riz grain moyen et le riz à grain court, qui est le riz rond. Alors après, vous avez différentes provenances, comme le riz basmati qui va venir d'Inde ou de Pakistan. Alors celui-ci, il est parfait pour toutes les préparations à base de curry. Vous avez le fameux riz arborio qui vient d'Italie. C'est un riz qui va très bien absorber, donc il est parfait pour les risottos. Le riz sauvage qui, lui, vient d'Amérique du Nord et d'Inde. C'est des riz qui sont des gros grains assez noirs qui ont un goût puissant qu'il faut mélanger avec d'autres riz. Et le fameux riz gluant qui est l'incontournable en Asie et qui est idéal pour les cuissons à vapeur.
Jean-Seb, on va battre en brèche une évidence.
Ben oui, parce qu'on pense en fait que le riz peut pousser uniquement les pieds dans l'eau. C'est totalement faux. Il pousse parfaitement sur des terres sèches. Il s'adapte assez facilement, le cultive dans l'eau pour une question de rendement. D'abord, ça empêche que d'autres herbes colonisent la parcelle. C'est plus pratique et il y a besoin néanmoins de beaucoup d'eau pour cultiver du riz. Donc comme ça, au moins, on est quitte d'arroser. La culture de cette céréale, elle est très polyvalente, elle s'adapte au climat très différent et ce sont ces différences climatiques qui donnent naissance à ces variétés multiples de riz. Chaque type de riz possède ses propre qualité, la texture, le parfum, la saveur. Le basmati, par exemple, il a ce parfum unique qui lui est propre. Le riz rond japonica, il a cette texture collante qui est idéale pour les sushis. Le riz noir, qui est un riz complet cultivé en Chine, il a une saveur également particulière. Et puis, il y a ce riz complet qui est un riz rouge qui vient des hauts plateaux de l'Afrique, qui est encore différent. Moi, je trouve qu'il y a quand même pratiquement la moitié de l'humanité qui se nourrit de riz. Ça n'est pas rien et c'est extrêmement important.
C'est vrai qu'on le retrouve dans toutes les cultures. Hein. C'est mondial, c'est universel.
Alors, avec le blé et le maïs, c'est l'une des trois céréales les plus cultivées dans le monde. Faut imaginer, le riz, c'est 15% de la surface cultivée du globe. Je vous le disais, 4 milliards de personnes se nourrissent à base de riz, contribuent pour 27% des apports caloriques dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. La production, elle doit augmenter, si on veut qu'il y en ait pour tout le monde, de 20% d'ici 2040. Et c'est là qu'on a un vrai problème. Parce que la production mondiale, elle s'est effondrée en 2021 et en 2022 à cause des changements climatiques. La chaleur et la sécheresse au sud de la Chine ont entraîné un manque d'eau tragique. La canicule et la sécheresse du nord-est de l'Inde avec des températures approchant 50 degrés. Les inondations à cause de la mousson exceptionnelle au Pakistan. La méga sécheresse en Californie. C'est parti pour durer. Les spécialistes du FAO, du Fonds mondial d'alimentation, sont en train de se poser la question de savoir si on ne va pas rentrer dans une période de pénurie grave en matière de riz. C'est une question qu'il faut pas négliger du tout.
C'est inquiétant. Diana, quand vous entendez ces chiffres, qui sont un peu alarmants, ça vient de le dire, est-ce que vous pouvez imaginer, vous, un repas chinois sans riz dans l'avenir ?
Difficilement.
C'est compliqué, hein ?
Ah ouais, parce qu'on en mange matin, midi et soir, donc ça va être très compliqué.
On peut le remplacer par quoi ?
Par les nouilles de blé, par exemple. C'est en fait le riz blanc permet en fait d'avoir en fait une saveur un peu neutre entre les différents plats qu'on va partager en fait à table. Donc ça va être difficile pour moi de remplacer le riz, mais bon, s'il faut, les nouilles.
Bon, comment on choisit le riz en fait, Louise ?
Alors une fois qu'on a un peu compris, on va dire, les variétés, on choisit son riz en fonction de ce qu'on va préparer. Donc le riz rond, c'est pour la paella par exemple. Arborio, risotto, riz gluant, makis, sushi. Le riz long, celui qu'on consomme, on va dire, le plus souvent en France, c'est pour tout ce qui est salade, accompagnement de viande, poisson, etc. Pour la cuisson, c'est selon le temps indiqué, bien rincer son riz. Moi, j'ai une petite passion, je ne sais pas, Diana, ce que vous en pensez, pour l'autocuiseur. Je trouve que c'est fantastique. Et aujourd'hui, on trouve des autocuiseurs
de riz,
en supermarché à des prix complètement abordables. Et ça, c'est un petit cadeau qu'on peut se faire.
Il y a même des enseignes de hard discount qui en proposent à des
exactement.
Prix extrêmement raisonnables. En matière de conservation, le riz ?
Ça se conserve longtemps dans un endroit à l'abri de la lumière, bien fermé. Vraiment, vous pouvez le garder longtemps. Et j'ai une petite astuce. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais c'est pas mal. Je l'ai testé. Alors, vous savez que l'eau du riz est très bonne pour la santé. L'amidon est bon. Et alors, j'ai testé un petit shot hivernal, petit cocktail anti-rhume, où vous mettez de l'eau de cuisson du riz, vous ajoutez du miel, du jus de citron et de la menthe. Et je vous jure que ça fait un peu le grog, mais beaucoup plus naturel et sans alcool. Et ça vous donne un coup de boost pour l'hiver.
Moi, je savais surtout que l'eau de cuisson du riz, elle servait à éliminer les problèmes
exactement.
Intestinaux.
Nous, on l'utilise. En fait, on cuit le riz très 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 longtemps jusqu'à que le riz soit totalement détruit.
Il éclate un peu, ouais.
Exactement. On fait ça comme une sorte de porridge. Effectivement, on le mange quand on est malade, parce qu'effectivement, voilà, ça permet de mieux digérer et c'est bon pour la santé.
Bon, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le riz, je vais vous garder avec nous parce que ça va être très intéressant. C'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez nous expliquer ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien en matière de cuisson et de cuisine.
Et ce que c'est surtout la cuisine asiatique.
Ouais, absolument. Diana Chao Mamali est notre invitée ce matin dans RTL vous régale. À tout de suite.
Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale.
En 83, le Moonlight Shadow de Michael Field sur RTL.
Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
La mission d'RTL Royal ce matin, puisque nous célébrons l'année du lapin dans le calendrier chinois, et pas que pour les Chinois d'ailleurs.
Hein. Calendrier lunaire.
Lunaire, calendrier lunaire.
Exactement.
Parce que pas mal de peuples asiatiques fêtent ce...
Ouais. Il y a les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens. D'ailleurs, ce n'est pas le lapin pour eux, c'est le chat. Ouais. Il y a aussi les Indonésiens, les Malaisiens. Voilà, donc c'est le calendrier lunaire. Donc c'est le nouvel an lunaire.
Le riz, on en parlait, on l'urge depuis le début de cette émission. Il fait partie intégrante de la cuisine asiatique et pas que. On le retrouve dans quels autres indispensables de la cuisine asiatique et chinoise?
Déjà, il y a différents types de riz. Il y a le riz gluant
On l'a dit, ouais.
Exactement. Et le riz au jasmin.
Est-ce que, excusez-moi, Dina, est-ce que le riz gluant, on le trouve facilement dans les supermarchés français?
On le trouve pas dans les supermarchés français, mais uniquement dans les supermarchés asiatiques.
Ah, d'accord.
Le riz gluant, c'est vraiment le riz typique d'Asie du Sud-Est, celle qu'on retrouve en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Ensuite, il y a l'autre riz, donc le riz long parfumé au jasmin, qu'on retrouve un peu au quotidien, justement en Chine.
Je regardais la liste, c'est hallucinant ce qu'on fait à partir du riz. On fait du vin de riz, on fait du vinaigre de riz, on fait des tas de choses.
Il y a la farine de riz, on fait la farine de riz gluant, on fait une vermicelle de riz, on fait les galettes de riz, on peut faire plein de choses.
Le riz le plus couramment utilisé dans la cuisine chinoise,
c'est le riz parfumé au jasmin.
Bon, comment on cuit du riz de manière raisonnable et raisonnée, c'est-à-dire pour ne pas faire n'importe quoi. Louise disait tout à l'heure, on le rince généralement.
Ça, c'est parfait.
C'est... Voilà, j'ai raison, Zéna, merci. Je vais venir en stage chez vous.
Petite gommette.
Donc effectivement, il faut le rincer 3 fois.
Si on n'a pas d'autocuiseur, je veux dire.
Ah, si on n'a pas d'autocuiseur, on peut faire à la casserole. Mmh. Mais bien évidemment, il faut le rincer 3 fois. Ensuite, il faut mettre la bonne quantité d'eau. Pas besoin du coup de plonger le riz dans un grand volume d'eau.
C'est ça l'idée. Comment on fait ?
J'ai à 2 fois le volume d'eau.
Donc j'ai une tasse de riz pour 2 personnes.
Alors moi, ce que je fais à la maison, je prends mon petit index en termes de mesure.
De repère.
Exactement. Et en fait, je mets moins d'une phalange. C'est comme ça qu'on m'a appris. Il faut juste que le niveau d'eau soit à 1 cm, hein, presque une phalange, du niveau de riz.
Oui, donc on peut compter un et demi, quoi, un volume et demi.
Oui, à peu près.
Grosso modo. D'accord. On doit cuire le riz combien de temps ?
Alors, il y a 20 minutes de cuisson à partir de l'ébullition.
Minimum.
Ah oui, c'est long.
D'accord.
Maximum.
Ah, maximum.
Et ensuite, on éteint le feu, on laisse le couvercle et on laisse 10 minutes. Comme ça, voilà.
Donc, on plonge le riz dans de l'eau froide.
Dans de l'eau froide.
On démarre à froid.
Ah, on démarre à froid.
Bah, c'est important.
Alors,
ça,
dans une casserole, on démarre à froid. On attend que l'eau soit portée à ébullition. Une fois que l'eau est portée à ébullition, on couvre, on laisse 20 minutes et on réduit le feu à feu moyen.
Ouais.
Au bout de 20 minutes, on éteint le feu et là, on attend 10 minutes avant de retirer le couvercle.
Et là, on est sûr du résultat. Il y a du sel dans l'eau ?
Jamais, parce qu'on recherche le goût neutre du riz. Puisque comme on a tous les autres plats qui sont très très forts en saveur, du coup, ça permet un peu
de neutraliser le reste.
Diana, si ce soir, j'ai envie de m'aventurer dans le riz parfumé au jasmin, le riz gluant, qu'est-ce que je peux faire ? Pour moi, j'ai le réflexe de faire un riz cantonais. Quelle est la première recette que je peux faire pour découvrir la cuisine asiatique ?
Bah, le riz sauté, effectivement, à cantonaise.
C'est le fameux riz cantonais.
Alors, comment on fait ?
Alors, comment
le vrai.
pas celui au petit pois et au jambon.
Ça, c'est pas le vrai. Alors, attendez, stoppez tout. Warning. Attention, voici la vérité sur le riz cantonais. Diana Chao.
Le vrai riz cantonais est réalisé à base de saucisse chinoise qu'on appelle saucisse lapcheng. En fait, c'est une saucisse qui est à base de viande de porc qui a été fermentée avec de l'alcool de feuilles de rose. Le mekweilu, donc ce qui donne un peu le côté un peu fermenté. Et le petit pois, en fait, c'est remplacé par le kailan, qui est une sorte de brocoli chinois.
Ah ouais,
mais qu'est-ce qui s'est passé là ?
On oublie le jambon, on oublie le petit pois.
Alors, je pense, mais j'ai jamais posé la question à mes aînés, mais je pense que les premiers du coup chinois qui sont arrivés, ils ont peut-être pas retrouvé tout de suite la saucisse et le kailan, parce que c'est des produits qu'on retrouve plutôt en Chine. Donc ils ont dû adapter aussi leur recette, et je pense qu'ils ont aussi adapté au goût des Français, puisqu'il faut savoir que...
Oui, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à y mettre de la saucisse de morteau, ça n'a rien à voir. Je sais, je me doute.
Vous voyez venir.
Je me doute. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Diana Chao va nous révéler 2 ou 3 trucs supplémentaires dans cette émission. Vous allez voir qu'en matière de cuisine chinoise, parfois, on rame complètement à contre-courant. Merci d'écouter RTL vous régale. On vous revient dans quelques instants. Je rappelle qu'il reste quelques minutes au 32-10 pour le défi frigo de ce matin. Voici Juliette Armanet, Flamme sur RTL. L'album Brûler le feu de Juliette Armanet, élu album RTL de l'année 2022 par le jury des auditeurs d'RTL, c'est-à-dire par vous. Merci d'avoir voté. Et c'est vrai que la délicieuse Juliette Armanet nous régale avec cet album. La chanson s'appelle Flamme.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Diana Shaw est notre invitée. Je sais pas si... Ciao. Je vous souhaite une très bonne année du lapin.
Merci à
ça
vous
Ça se
aussi.
Dit comme ça.
Joyeux lapin.
Non, bonne année du lapin.
Bonne année du lapin. Xinyao.
On vous a découvert sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, à travers des vidéos que vous signez sous le pseudonyme de Mamali, c'est ça?
Exactement.
Ça vient d'où?
C'est un hommage à...
D'accord. Wow. C'est elle qui vous a donné le goût de la cuisine, c'est souvent le cas chez les chefs.
C'est elle qui m'a tout appris, effectivement.
Vous allez donc nous ouvrir les portes de votre cuisine, ce que vous faites d'ailleurs pour tout le monde, hein. Vous nous avez gentiment convié à un cours de cuisine, parce que vous donnez des cours de cuisine.
Je donne des ateliers de cuisine.
Des ateliers de cuisine chinoise.
Oui, dans le 19e arrondissement de Paris.
Et vous êtes la championne des raviolis.
Alors, je ne sais pas si je suis la championne, je ne sais pas s'il y a un concours de...
Non, mais moi, je peux le dire.
On va en créer un, Diana. On va en créer un.
On a une passion pour les raviolis dans
et
cette
pour
émission,
les concours. Forcément.
Est-ce que le ravioli est quelque chose qu'on retrouve dans un menu idéal, traditionnel, de Nouvel An chinois?
Complètement.
Ah ouais?
Complètement, parce que c'est très fort en symbolique.
Symbolise quoi?
La richesse.
Ah, dépend, donc on va en manger, nous, des raviolis.
Dedans.
Non, ça dépend de la forme qu'on réalise.
Explication.
Les raviolis du coup chinois sont réalisés en forme de lingot d'or.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça qu'on les déguste au Nouvel L'heure lunaire pour se souhaiter prospérité.
D'accord, ah, très bien. Bon, alors, ce qui est compliqué parfois avec la cuisine chinoise quand on est un novice, c'est qu'on n'a pas forcément sous la main les bons ingrédients. Ouais. Pour faire simple, les indispensables, mais genre les trucs qu'on ne va pas garder 6 mois ou 2 ans dans un placard et qui seront périmés le jour où on va vouloir les réutiliser.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Je
les indispensables,
bien.
Les basiques.
Indispensables.
Il faut avoir quoi?
Alors, il y a 8 sauces indispensables à avoir dans son placard. Ouais,
quand même. Hein.
Ouais, mais on est sûr de pouvoir faire tous les plats.
Je dirais sauce soja.
Ouais, la sauce soja claire. Hein.
La claire.
Donc c'est la salée.
Mmh.
Donc ça permet de saler le plat. La sauce de soja foncée.
D'accord.
La sucrée?
Non, pas la sucrée. Attention.
Ah, c'est salé aussi.
Oui, c'est salé, mais alors la sauce soja sucrée, c'est une invention totale.
Ah putain, c'est comme le riz cantonné au petit pois, quoi.
Exactement.
Ouh là là.
Ça n'existe pas la sauce soja sucrée?
Non. Non, non.
Ça vient des Américains, en fait. Ça a été adapté au goût des Américains qui ont eu une appétence pour le sucré des hamburgers. Et c'est apparu aux États-Unis sur la côte ouest au début du XXe siècle.
C'est un peu la crème du carbonara, quoi. Le truc à ne jamais faire.
Exactement.
On est d'accord.
C'est les boulettes, c'est les spaghettis aux boulettes.
Qui sont nés aux États-Unis à New York.
Voilà, exactement.
J'ajoute la sauce d'huître.
Pour celle qui va permettre de booster l'umami de chaque ingrédient.
Le nguoc tam.
La sauce nguoc mam.
Nguoc mam,
finalement. Nguoc mam.
Fort.
D'accord.
Ouais, très très fort, je suis très impressionnée.
Bon, je tente l'impossible.
La sauce nguoc mam qui est l'équivalent de la sauce soja salée pour les pays d'Asiatique du Sud-Est. Donc ça permet de saler, il ne faut pas trop en mettre, parce que sinon on bousille le plat.
Ouais, c'est trop donc, salé. Ouais.
Moi je dirais de l'huile de sésame aussi.
L'huile de sésame pour parfumer. Alors pas en huile de cuisson, mais juste à la fin.
Mmh. Non, mais on s'amuse parce que.
On peut dire la vérité.
On peut dire la vérité. Avant que l'émission commence avec Diana, je lui dis je suis un passionné de gyoza, je l'ai fait comme ci, comme ça. Et je l'ai fait frire dans un tout petit peu d'huile de sésame. Elle dit mais malheureux, vous êtes bien fou, mon pauvre ami.
Erreur.
Ben, c'est pas une huile qui.
Ça assaisonne, ça ne cuit pas.
Exactement. Et c'est pas une huile qui supporte les hautes chaleurs. Et dans la cuisine asiatique. Oui. On cuisine avec du feu et avec une forte intensité.
Pour les sauces, on a fait le tour ou pas? Le vinaigre de riz, on l'a dit.
Ça s'utilise maintenant partout, c'est fabuleux. Le
vinaigre. Ouais, exactement. Pour les marinades, pour les vinaigrettes.
Moi, il y a une sauce que j'adore, c'est celle qui arrache un tout petit peu, c'est la sriracha.
Ah, la sriracha. Ah, j'adore moi, j'adore aussi.
Ça, c'est pas une invention européenne,
non,
on est d'accord.
Non, pas du tout. C'est juste du piment qui a été fermenté pendant 3 jours. Voilà. Donc, ça, c'est parfait pour pimenter.
Je voyais un truc qui s'appelle l'huile chouchou.
Ah, ça, c'est.
Ça, je sais pas ce que c'est.
C'est l'huile pimentée. En fait, c'est comme la chili oil. On l'utilise moins. Ça, c'est pas trop dans les indispensables.
Bon, qu'est-ce qu'on cuisine au menu du Nouvel An, du coup? On
des
met
raviolis.
Quoi? On met des raviolis.
Dites-nous qu'il y a des raviolis.
Allez, raviolis.
C'est parti pour les raviolis, vite fait.
Vous voulez quoi? La recette,
vite fait. La recette. C'est la pâte qui est compliquée.
Non, elle est très facile. Elle est réalisée à base de farine de blé, de l'eau, tiède. Attention à la température de l'eau.
Oui,
c'est important.
Tiède.
Tiède. Et du sel. Tout simplement.
On fait la petite boule,
les petits pâtons. Exactement, on fait les petits pâtons. Et là, on réalise la petite farce à côté. Donc la farce, vous pouvez faire toute petite de farce que vous souhaitez.
On parlera
saucisse
de la farce.
De Montbéliard.
Non, mais on parlera de la farce, des raviolis. Vous savez, moi j'ai une passion pour le ravioli aux crevettes, le hakao.
Le hakao.
Hakao.
Bonne prononciation.
Je progresse.
Moi, je suis hyper impressionnée quand même. Alors le hakao, ça c'est une sorte de dim sum cuit à la vapeur. Mais il n'est pas réalisé en forme de lingot, donc c'est pas vraiment ceux-là qu'on va vraiment manger au Nouvel An lunaire.
On en parlera dans quelques instants pour les ateliers de cuisine.
Ouais. Okay.
Je termine le placard. On a dit la sriracha. Il nous manque du curry, peut-être
Un peu de curry. Non, en fait, on a vraiment les huit sauces. Avec ces huit sauces-là, on peut tout faire.
D'accord.
Tous les plats asiatiques. Après, qu'est-ce qui manquerait? Il manquerait l'ail et le gingembre.
Obligatoire.
Et
voilà.
Diana, pour trouver ces sauces, on va où? Il y a un site internet.
On va dans les supermarchés asiatiques.
Il y en a partout en France?
Partout, plus ou moins, mais de plus en plus. Mais alors, je ne sais pas si on peut nommer ou pas les.
Oui, ou un site internet où on est sûr de tout trouver.
Il y a Asia Market, Ton Frère. Ton Frère, c'est le supermarché emblématique. Paris Store, pareil. Chaîne Market. Voilà, donc.
Super. Ils sont généralement dans le 13e arrondissement de Paris.
Dans le 13e, il y en a un peu partout maintenant en Île-de-France.
J'ai un sac en toile de jute sous les yeux, magnifique, intitulé Mama Lee, la food asiate, la vraie. Ce qui tenterait à prouver qu'il n'y en a pas toujours que des vrais. Non, mais sérieusement.
Non, c'est juste que j'ai voulu vraiment me différencier avec la vraie, c'est-à-dire le goût authentique qu'on va retrouver, enfin le goût de la maison en fait. Bon. Voilà.
J'ai jeté un coup d'œil dans le sac que vous nous avez gentiment offert. Il y a des oranges.
Et des clémentines.
Ah, des clémentines, pardon.
Pour porter chance.
Et c'est quoi ce petit. voilà, je ne l'ai pas déballé encore.
C'est un petit gâteau avec
C'est un petit gâteau. C'est un petit biscuit. Vous savez, les petits biscuits qu'on trouve dans les. Exactement, qu'on trouve dans les films quand on doit casser. Il y a un petit message à l'intérieur.
Oh, je vais l'ouvrir le mien.
D'accord. Je peux vous poser une question qui remonte à mon enfance et un traumatisme. Je parle un peu de
on
moi,
fait
mais
la
je,
thérapie de Jean-Michel
j'ai besoin
Zeka aujourd'hui.
De me confier. Est-ce qu'il existe en Chine? Est-ce qu'on en trouve? Vous savez, ces petits verres avec les gens nus qui sont au fond du verre quand on verse le Mei-Kwai-Lo.
Ouais, ouais.
Vous savez, ça existe en Chine ou pas?
Oui, ça existe.
Ah, donc ça veut dire que ce n'est pas une invention française.
Des gens nus.
Des gens nus.
Et assez peu épilés d'ailleurs. Ça vient d'où cette tradition?
Parlons
ravioli. Alors là, je ne saurais pas vous dire.
J'ai bien fait de poser la question. Nous sommes de retour dans quelques instants. C'est RTL vous régale en ce début de week-end. Merci de nous faire confiance. A tout de suite. C'est l'année du lapin ou pas?
Bah oui.
Ben voilà, bougez pas.
Restez bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Et notre invitée de ce matin dans ce dossier Nouvel An lunaire, Diana Chao, merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin dans ce menu de... Mm-hmm. Est-ce qu'on parle de réveillon d'ailleurs?
On peut parler de réveillon,
On parle de Nouvel An, mais la soirée de...
Ouais, c'est le réveillon.
Il y a une veillée quand même
En fait, on fête au réveillon, la veille.
D'accord.
Mais alors c'est quand exactement?
Ça dépend du calendrier lunaire, ça change.
Là, cette année.
Là, c'était le 22, 22 janvier.
Ouais. D'accord.
22 janvier, donc on a fêté le 21 janvier au soir.
Très bien.
Ça se prolonge un peu ou pas dans le temps?
Ça dure 15 jours.
Oui, donc on y est toujours.
On y est toujours et là, c'est la tournée des clémentines.
Ah!
D'où les clémentines dans les sacs. Très bien. Alors dites-moi, comment commence le repas? Je sais qu'il y a une prière au départ.
Oui, effectivement. Alors on prépare une dizaine de plats, donc il faut qu'il y ait plein de plats, il faut qu'il y ait de l'abondance à table. Et en fait, avant de passer à table, on fait une prière à tous les défunts en les remerciant de l'année qui est passée. Voilà, en leur demandant de nous porter chance pour l'année qui arrive.
Et de vous protéger.
De nous protéger. Et une fois que tout le monde a fait sa petite prière aux défunts, là, on peut démarrer.
Ouais. Il y a combien de plats sur la table? Je dis ça parce que je sais que ce n'est pas entrée, plat, dessert. On met tout en même temps sur la table?
Exactement, on met tout sur la table.
Ouais, on partage, on picore.
On partage. Il y a entre 8 à 12. En tout cas, chez moi, on fait entre 8 à 12 plats.
Ouais, quand même.
Ouais.
On parle d'abondance et c'est intéressant ce que vous dites parce que je sais que chaque plat a une espèce de symbolique en tout cas.
Exactement.
On va parler des nouilles de longévité. Ouais. J'ai bien compris que forcément le nom indique, c'est écrit dessus. Hein.
Les nouilles de longévité, donc c'est des nouilles ultra fines, hyper longues, qu'on n'a pas le droit de couper. C'est un peu comme les pâtes à l'italienne, les spaghettis, on ne peut pas les couper. Donc là, pareil, on n'a pas le droit de les couper. À base de farine, de blé et d'œuf, ça c'est important.
Ah, c'est de la farine de blé, pas de riz?
Non, c'est la farine de blé et de l'œuf parce que c'est symbole aussi de fertilité. Si jamais on voudrait avoir des enfants, voilà.
Mais c'est les nouilles sautées qu'on connaît chez le traiteur?
Alors, c'est pas tout à fait comme les traiteurs. Parce que c'est pas les mêmes nouilles, mais
on nous ment, Diana, en fait,
non,
depuis le
non,
début.
Non, mais pas du tout. C'est juste que c'est un certain type de nouilles, voilà.
D'accord. Mmh. Et elles se cuisinent comment ces nouilles?
Sautées à la cébette et des pousses de soja, tout simplement, avec un peu de sauce de soja, un peu d'huile de sésame. Et c'est vite fait, bien fait.
Je vois très très bien.
Ouais.
Et pour les manger, ça reste dans l'assiette parce que comme c'est très 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 long, c'est compliqué.
Bah après, il faut. Ouais.
Est-ce qu'on tourne les nouilles avec les baguettes?
Non.
C'est impossible. C'est un exercice de fou.
Ah non, s'il vous plaît, non.
Non mais comment? Je pose la question.
On n'a rien compris. Non.
Comment on fait du coup si elles sont très longues?
Bah après, bon, on les coupe avec les dents.
Ah bah voilà. On y est.
Alors, un autre plat emblématique sur la table, il y a quoi?
Un autre plat emblématique.
Il y a les fameux nem.
Alors, on a, les nem, c'est vietnamien.
Oui.
Parce que c'est fait à base de galettes de riz. Mais on a l'équivalent en Chine, ça s'appelle les pâtés impériaux, qui sont à base de galettes de blé. Et effectivement, on le trouve à la table. Pourquoi? Parce que ça symbolise aussi la prospérité, puisqu'ils sont en forme de lingot.
Alors, Diana, s'il vous plaît, un cours de pâtés impériaux en 2 secondes et demie.
Hyper simple.
Alors,
hyper
allez-y, simple. Alors, on
déjà,
note.
Il faut de la galette de blé.
D'accord.
On positionne en forme de losange. On dépose la farce au centre.
Farce de quoi?
Farce au porc, aux
crevettes.
Voilà, un peu ce que vous voulez, ou végétarien même.
On met les restes même qu'on a.
On peut mettre des restes. Franchement, c'est, la farce, c'est comme vous le souhaitez, même au canard. Et ensuite, vous repliez les deux extrémités, le bord du bas, et vous roulez en serrant bien. Le roulage.
Voilà. Très bien. Et après, on fait frire.
Après, on fait frire, tout simplement.
Mmh. Et on a les nems maison, voilà. Tout simplement.
Bon. On a quel type de cuisson? Il y a la cuisson vapeur, il y a la friture.
La friture, il y a le sauté.
Il y a le sauté, ouais.
Il y a
la grillade.
Il y a la grillade, ouais. Mmh. Pour les raviolis, hein. Et puis il y a le poché aussi.
Et je vous posais la question, la différence entre les gyoza et les raviolis, vous me disiez que c'était la même chose.
Ravioli, c'est le nom générique, et gyoza, c'est un type de ravioli. Gyoza, c'est le nom japonais. En chinois, on appelle ça des jiaozi. Et ensuite, il y a tous les autres raviolis, tels que les hagao, ou encore.
Ravioli aux crevettes. Hein.
Ravioli vapeur aux crevettes, ou les siomai, qui sont des bouchées vapeur au porc.
Jean-Seb.
Et tout ça, ça se fait avec le wok, qui est essentiel.
Ouais.
C'est le centre de la cuisine chinoise. Il y a même des wok qui sont incrustés. Hein, j'en ai vu en Chine, qui sont carrément un meuble. Et si on a un wok, on peut tout faire en matière de cuisine. C'est l'outil indispensable pour bouillir, pour sauter, pour frire, pour rissoler, pour braiser, pour faire revenir, même pour cuire à la vapeur.
Ouais.
Et c'est là où on cuisine à grand feu, puisque ça cuit très chaud et ça peut prendre feu. Et il faut que ça prenne feu parfois à l'intérieur.
Mais non, mais ça signifie qu'il faut avoir du gaz. Il faut une flamme.
Maintenant, ça existe, les wok à induction.
Exactement.
Mais est-ce que c'est pareil?
Non, jamais.
On n'obtient jamais
ce. On n'obtient pas ce qu'on appelle le souffle du wok, le wok hei. Qui du coup en fait c'est cette fameuse c'est avec le gaz en fait, avec le feu qu'on fait griller très très rapidement en 5 minutes.
Bon, le poisson en abondance, le poulet toujours entier.
Toujours entier.
Pourquoi le poulet entier?
Bah pour souhaiter harmonie.
Très bien. Ouais. Vous permettez que j'aille sur le cliché, mais vraiment le gros cliché.
Allons-y.
Allez-y.
Je vous donne 10 secondes pour reconnaître la chanson. China Girl.
Ah non, je connais. Non,
c'est
non.
Pas vrai. Non, c'est la première fois que vous l'entendez.
C'est la première fois.
Je suis super ému.
Alors, je sais pas trop ma came, David Bowie.
Énorme standard. C'est l'année du lapin, même pour Bowie.
Of swastikas in my head, burns forever.
En 83, classique au répertoire de David Bowie ce matin dans RTL vous régale, c'était China Girl. Quand je pense que vous l'avez entendu pour la première fois, il fallait que vous veniez chez nous. Hein.
Exactement.
Je dis, il n'y a pas de hasard.
Non, il n'y a pas de hasard.
Je vais vous dire un truc, l'année du lapin commence très bien, sous les meilleurs auspices.
Ouais, c'est sûr.
Expliquez-moi aussi très vite avant le défi frigo, pourquoi dans les restaurants chinois touristiques, on va les appeler comme ça, on choisit les plats en fonction d'un numéro.
Alors, je pense que c'est plus facile pour retenir.
C'est juste parce qu'on ne peut pas prononcer le nom des plats, généralement.
Bah, après, ils sont écrits en français, non ?
Souvent, non, c'est en chinois, il y a un numéro. Ah, je vous explique pourquoi je prends un 38. Je prends un 38, nous sommes en Isère, avec Christiane. Bonjour, Christiane.
Je suis contente de vous avoir.
Non, pas autant que nous.
Ah oui.
Christiane, est-ce que vous saviez que c'était l'année du lapin pour les Chinois ?
Oui, j'avais entendu parce que moi j'écoute bien RTL.
Eh bien, vous avez bien raison.
Voilà.
Vous bougez pas, on marque une très courte pause et vous nous révélez l'ingrédient de votre frigo pour le défi du jour dans un instant. À tout de suite.
Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale revient. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
La France retient son souffle et attend patiemment la révélation de l'ingrédient du défi frigo de ce samedi matin. Christiane,
oui,
à Salagnon en Isère,
oui,
va nous révéler de quoi il s'agit.
Des
nous allons jouer, non pas du tout, nous allons jouer avec...
Une belle betterave rouge.
C'est une magnifique
idée. J'adore ça.
Vous les avez achetées où, vos betteraves, Christiane?
Je les achète pas, mon mari, les produits, puis je les mets au congélateur pour l'hiver, quoi, voilà. Mais on se régale. Hein.
Ah, ça se congèle, la betterave?
Ouais.
Ah, oui.
Mais une fois qu'elle est cuite?
Oui, je la fais cuire et puis je la congèle après. Elle ne bronche pas au congélateur.
D'accord, j'ai une info betterave, ça intéresse quelqu'un?
Ouais.
Choisissez la betterave crue avec une peau peu desséchée et la betterave cuite doit avoir une peau bien lisse.
Très bien.
Voilà. Une espèce de petite peau de bébé.
Ouais, ouais. Et les mettre dans les pâtés impériaux en lamelles. Ah, mais je pense que...
Commencez pas
à la place de la carotte.
La cuisine chinoise. Non, vous savez qu'on n'est pas pour la revisite dans cette émission. Deux recettes originales à base de betterave. Vous ne bougez pas, c'est dans la suite d'RTL vous régale. Vous écoutez RTL, il est 11h. La betterave, une bête rare dans le défi frigo, puisque c'est la première fois qu'on joue avec. Allez, à tout de suite.
RTL vous régale.
C'est le défi frigo sur RTL.
Le défi frigo, vous connaissez le principe, Diana ?
Non, pas
du tout. Franchement, vous pouvez dire non. Donc en fait, c'est la première fois que vous écoutez l'émission. Non, vous pouvez dire oui.
Mais il y a une première fois à tout. Il y a une première fois, mais je suis là. Hein.
C'est le plus important. J'ai l'impression qu'on joue à ni oui ni non avec Diana. On joue avec quoi ? On joue avec la
betterave.
Elle a suivi la betterave de Christiane qui est à Salagnon en Isère. Les betteraves de son mari. Alors attention, Christiane, on commence avec qui ce matin ? C'est vous qui choisissez.
Avec Louise.
C'est parti pour la recette de Louise et vos betteraves assaisonnées comme ceci.
Alors Christiane, je fais rapide parce qu'on n'a pas le temps. La betterave,
minute.
Si elle est crue, moi j'ai une astuce pour la cuire. Est-ce que vous avez un feu de cheminée ?
Oui.
Et bah vous allez la mettre dans du papier d'alu, donc la crue. Vous mettez de l'huile d'olive, des épices, vous enfermez la petite boule et vous mettez ça dans votre feu de cheminée et elle va cuire avec le petit goût du bois, ça va être juste parfait.
Vous mettez dans la braise ?
dans la braise.
Voilà.
Une fois qu'elle est cuite, on va faire un millefeuille de betterave et chèvre. Vous allez prendre une mandoline, si vous avez, ou un couteau.
Oui.
Et vous allez faire des fines tranches de betterave. À côté de ça, vous allez prendre un fromage de chèvre frais, style petit billy, qui est assez dur et qui n'a pas trop d'eau, que vous allez mélanger avec de l'huile d'olive, du piment d'Espelette pour relever un petit peu tout ça, et des épices si vous le souhaitez. Et place au dressage, hyper simple, hein, Christiane. Une tranche de betterave, du petit chèvre, une tranche de betterave, du petit chèvre, pour faire un merveilleux millefeuille de betterave au chèvre avec des petites noix.
Top chrono en une minute. Deux recettes en une minute sur la betterave cuite et crue. J'ai rêvé ou sur la première recette, vous m'avez fait une papillote?
Non, pas du tout. La papillote, c'est pas avec de l'aluminium.
Ah bon?
Et c'est pas au feu.
Ah bon? D'accord, très bien. C'est une papillote revisitée.
Non, mais je ne vous ferai pas ça.
Très bien. Merci Louise. Jean-Seb, attention en une minute.
Écoutez, tout le monde connaît la soupe à la betterave qui vient des pays de l'Est. Il y a 1000 recettes, il y a 10 000 variantes, chaque famille a sa recette de borscht. Moi, celle-là, je la tiens d'un ami ukrainien. Vous épluchez votre betterave, puisqu'elle est déjà cuite, c'est encore plus simple. Vous la décongelez, votre betterave, si j'ose dire, et vous allez faire pareil, vous allez éplucher des topinambours. Si vous avez une racine de persil, c'est encore mieux. Vous mettez tout cela à cuire dans une casserole avec un bouillon de légumes. Vous faites cuire jusqu'à ce que tout soit moelleux, tous les légumes soient moelleux. Vous allez écraser une gousse d'ail. Une fois que c'est cuit, vous allez passer au mixeur ou dans votre blender. Vous salez, vous poivrez, vous rajoutez une cuillère à soupe de vodka et vous allez servir très chaud avec une cuillère de crème fraîche à l'intérieur. C'est magnifique.
Et en une minute, voici la recette de Jean-Sébastien Petit-Demange. Recette ukrainienne d'origine.
Absolument.
Ma chère Christiane,
oui.
Vous avez le choix. Le choix des armes.
Eh bien écoutez, je vais tout de suite, je saute sur Louise.
Ah, sautez sur moi, Christiane.
Jolie formule. Expliquez-moi pourquoi.
Pourquoi? Parce que la soupe de betterave, je la goûterai. Je pense que ça va être bien de faire le millefeuille de Louise.
Ah oui, oui, oui.
Avec le fromage.
Vous allez voir, c'est formidable.
Je fais cuire combien de temps
Dans le feu?
Oui.
25 minutes selon la taille de la betterave.
Très bien.
Vous mettez un petit coup de couteau pour voir la cuisson.
Oui, oui. Très bien. Ben,
vous allez voir, c'est merveilleux. Vous pouvez la faire aussi en croûte de sel, Christiane, à la place de l'aluminium.
Ah,
vous mélangez du gros sel avec du jaune d'œuf pour que ça se tienne et ça fait une croûte de sel, c'est incroyable.
Ça fera moins papillote du coup.
Voilà.
Victoire de Louise ce matin dans le défi.
Merci voilà. Christiane.
Bravo, bravo.
Voilà. Merci.
Christiane, je vais vous faire une confidence.
Dites-moi.
Vous aviez extrêmement bien fait de nous appeler au 3210 ce matin, vous savez pourquoi?
Non.
Car vous venez de gagner une semaine de vacances au ski, Christiane.
C'est pas vrai. Je suis en chair de poule jusque dans la chevelure.
Écoutez-moi bien, vous allez partir, non pas avec votre mari, mais à quatre. Vous allez partir en famille, dans une résidence Néméa, des résidences qui vous accueillent dans des locations de vacances avec piscine, dans les plus grandes stations des Alpes et des Pyrénées. Vous allez pouvoir choisir votre destination de vacances parmi les résidences de Font-Romeu, Châtel, La Toussuire, les Deux Alpes ou encore Serre Chevalier. De plus, l'équipe Intersport va vous équiper avec un matériel de qualité. On s'occupe de tout.
Eh ben écoutez, c'est pas mal.
Est-ce que vous skiez?
Non, pas moi, mais mes deux enfants.
D'accord, alors, je réserve directement auprès de la direction d'Intersport une paire de raquettes pour la championne de la betterave au feu de bois. Le message est déjà enregistré.
Et il faut une raclette pour le soir, après les raquettes.
Minimum.
Ah bah attendez.
Minimum. Vous nous raconterez comment ça s'est passé, Christiane. Vous nous repasserez un petit coup de fil, ça nous intéresse.
Mais vous savez que vous êtes les Dalton de la cuisine.
Et vous savez ce qu'Averell n'avait de cesse de répéter?
Dites-moi.
Quand est-ce qu'on mange? C'était ça la question. Exactement. Et nous, on a la réponse tous les samedis entre 10h et 11h30.
Je suis super contente, vous êtes formidable.
Continuez
comme ça.
Ne faites pas la folle sur les pistes, soyez prudente, je vous embrasse.
Merci, merci, merci à tous.
Et bonne année du
lapin.
Merci.
Être français, c'est les tours des mureaux. C'est des champs jaunes et les tracteurs Peugeot. Des clochers, des temples et des minarets. Et on sait vivre ensemble, ce qui paraît. Être foncé, les ronds-points qui fleurissent. Draguer les extrêmes, voter pour des miss. Être français, c'est tenir des pancartes. Ce petit point qu'on entend sur la carte, c'est ici. c'est le pont des arts, c'était mes Césaires. Être français, c'est lever en octobre. Un verre de vin pour admirer la robe. Il boit au prochain congé à la vie. Ou à la mémoire d'Ilan Halimi. Moi aussi. Qui marche, non des droits qui grondent. C'est rêver tout bas des États-Unis. Marcel Cerdan, c'est Mohamed Ali. Être français, c'est des gens qui s'unissent. Le temps d'une balle ou le temps des cerises. C'est allumer la télé des bougies. Cet état d'âme un peu qui nous unit. C'est ici. C'est des gens qui rêvent et qui entrent. C'est l'espoir de mon père dans les années 50. C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle. Un autre qui attend sur un banc de sable. C'est la nuit à Calais, c'est la nuit des Césars. C'est par choix ou par hasard. Par choix ou par hasard. Par choix ou par hasard. C'est par choix ou par hasard.
Titre de Calogero ce matin dans RTL Royal, par choix ou par hasard. Et c'est absolument pas un hasard si on a décidé de célébrer l'année du lapin. Ouais. C'est le nouvel an chinois pour quelques jours encore. Ça se prolonge.
Encore une semaine.
Encore une petite semaine.
Ouais, on peut encore faire la tournée des clémentines.
Voilà, les festivités continuent. Et dans un instant, d'ailleurs, on va vous révéler deux ou trois petits secrets de ce menu de nouvel an parce qu'on vous a pas parlé de tout. Il y aura du poisson sur la table. Ouais. Il y aura des boules de sésame que vous nous avez apportées qui sont absolument délicieuse. Et un petit gâteau assez particulier. Oui. On vous explique avec Diana Chao, qui est notre invitée, dans un instant. À tout de suite.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite.
Donc, il est pas mal votre 5 à 20, Jade.
Bah, j'essaye de le caser à faire conclure.
Ouais, vous allez le revendre tout à l'heure, en fait, à Sophie d'avant, c'est ça?
J'espère, il est bien, vous savez.
10 balles. Moi, je pense que c'est
okay.
Bon, on va voir avec
c'est
elle.
C'est pas le prix d'une flûte, quand
Sophie
même.
Sophie d'avant est notre invitée à partir de 11h30 pour refaire la télé. À tout de suite.
Jusqu'à 11h30. RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Passez un très bon début de week-end si vous avez envie de cuisiner chinois à la maison ce soir. C'est une merveilleuse idée. Restez avec nous. On va vous donner quelques petits tips pour vous en sortir un peu plus facilement. Par exemple, on pourrait même imaginer que ce soir, on fête le nouvel an chinois comme on le fait sur les tables chinoises.
On peut, hein.
On pourrait. Si on est un peu ambitieux.
Ouais.
On peut le tenter.
Ouais.
On aurait du poisson sur la table. On pourrait avoir de la dorade ou du bar.
Exactement.
Servi entier. Signe d'abondance.
Exactement.
Allez, j'achète une dorade.
Faites 3 incisions. Vous plantez 3 petites lamelles de gingembre. Vous le mettez à la vapeur.
D'accord.
10 minutes, top chrono, pas plus, pas moins. Comme ça, on a une bonne chair qui reste tendre et ferme. Et ensuite, au bout de 10 minutes, on va l'assaisonner avec une cuillère à soupe de sauce huître, une cuillère à soupe de sauce de soja, quelques petites gouttes d'huile de sésame.
Qu'on mélange les 3 ensemble.
On mélange. On le verse sur le poisson, on le remet du coup à la vapeur 2 petites minutes et là, c'est fini. Et là, on vient dresser avec un peu de cébette.
Vous nous avez apporté dans un magnifique panier à dim sum ces boules de sésame qu'on n'a pas fini de manger d'ailleurs.
Non, j'aimerais bien que vous...
c'est terriblement bon.
C'est très addictif.
On en parlait avec Jean-Sébastien et Louise, on se disait c'est marrant parce qu'on ne sait pas trop si c'est sucré ou salé. C'est a priori sucré.
C'est sucré.
Mais c'est tellement peu sucré qu'on se demande
si...
On peut
rajouter plus de sucre hein,
ouais.
Si on aime les choses beaucoup plus sucrées.
C'est un truc qu'on peut faire à la maison facilement ce soir.
Il faut quand même avoir quelques petits ingrédients à la
maison. Il faut de la farine de riz.
Il faut
de la farine de riz gluant.
Exactement, farine de riz gluant pour avoir le côté un peu élastique, le côté très chewy qu'on adore, comme pour les perles de coco, hein, le côté très élastique, avec de la farine de riz qu'on va mélanger.
Avec de l'eau.
Très très chaude, donc il faut bien mélanger, attention du coup parce que l'eau est extrêmement chaude. De l'eau sucrée, on verse sur la farine.
On obtient une pâte.
Avec une cuillère à café de levure, pour que ça puisse gonfler au moment de la friture. On mélange, on laisse reposer et pendant ce temps on fait la farce. Alors la farce c'est fait à base de haricots mongo, noix de coco, du sucre, Et on fait cuire tout ça dans une casserole. On attend bien, il faut que la farce soit ultra sèche par contre, parce que sinon ça va être très compliqué. Enfin, au moment où on va.
Ça veut dire qu'on fait un petit disque, on pose la farce dessus et puis on le ferme en boule.
Ouais, on fait des sortes de petites boules de ping-pong de pâte. On aplatit la pâte, on dépose la farce au centre, on replie, on reforme une boule, on parsème des graines de sésame. Et ensuite, on passe à la friture.
Et on fait frire, c'est ça qui est bon,
ouais,
en fait.
C'est ça qui est bon.
C'est ce goût de revenez-y, ouais. C'est la friteuse.
Ouais, ouais.
On a compris qu'on ne faisait pas entrée, plat, dessert, mais un mot sur un dessert quand même. C'est une espèce de petit gâteau de Nouvel An, d'ailleurs, qu'on appelle le Niangao.
Niangao, Nian, année, gao, gâteau de l'année.
Gâteau de l'an neuf, quoi. Ouais.
Voilà, exactement. Et en fait, c'est fait à base de farine de riz glue encore, parce qu'en fait, on veut que ça stick, que la grandeur colle à nous. Toute l'année. Voilà pourquoi on fait le Niangao.
Et donc c'est génial. Hein.
Je trouve ça génial comme imagerie. Ouais. L'iconographie est géniale.
Et un dernier petit mot sur les bao, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un peu tendance en ce moment. C'est quoi? C'est une petite brioche?
C'est une brioche légèrement sucrée. Qu'on farce avec de la viande de porc, qui a été marinée avec de la sauce d'huître, du tofu fermenté, enfin voilà, plein d'ingrédients. Et c'est un plat très populaire. À la base, c'est un aliment
de
pauvre, mais à la base, c'est pour ceux qui travaillaient en pleine campagne, ils mangeaient ça parce que c'est rassasiant. Et maintenant, c'est devenu très populaire ici.
Mmh. C'est très pékinois par rapport à la cuisine.
Même shanghaïenne.
Oui, les shanghaïennes, quand on met du poisson. Mais c'est, en gros, il y a quatre grandes cuisines en Chine. On a connu, nous, en Occident, par les États-Unis et par les migrations, on a connu essentiellement la cuisine de Canton.
Exactement.
Parce que c'est celle qui a le plus essaimé dans le monde. Et c'est ça qui est passionnant quand on va en Chine, c'est qu'on découvre un univers qui n'a plus rien à voir, notamment dans la street food, qui est quelque chose d'incroyablement riche, qui fait qu'on mange tout le temps.
C'est le cas au Vietnam, c'est le cas au Cambodge, c'est le cas dans plein d'endroits en Asie. La cuisine de rue, c'est une vraie tradition.
Mais est-ce que je peux rebondir sur la partie? En fait, on connaît plus la cuisine cantonaise, ça c'est vrai, et en fait, on connaît plus, en tout cas en France, la cuisine d'Asie du Sud-Est.
Absolument.
Puisqu'en fait, il y a beaucoup de cantonais qui ont migré vers le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, et c'est les premiers immigrés en fait en France qui sont arrivés et qui du coup ont construit le Chinatown du 13e arrondissement.
Vous nous ferez un canard laqué un jour sur un cours de cuisine?
Être compliqué.
C'est trois jours de boulot, c'est un boulot de dingue.
C'est comme pâté croûte.
Ouais, exactement.
Pourquoi pas?
En trois services.
En trois services.
Bon, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite.
Merci à
Juste
vous.
Un mot pour terminer. Est-ce que la cuisine chinoise qu'on mange en France a évolué? Est-ce qu'elle se rapproche aujourd'hui de celle qu'on peut manger en Chine? Alors, ou est-ce qu'elle est toujours une cuisine de touristes pour grossir le trait?
Je distingue Paris et les autres villes parce qu'en fait, je pense dans les autres villes, ça va venir au fur et à mesure. Mais en tout cas, à Paris, la deuxième génération qui est née en France a cette volonté, comme moi, en fait, de vous faire découvrir l'authenticité de ces plats. Et donc, ils ont commencé à ouvrir de plus en plus de restaurants au goût authentique. Et donc, le palais des Français aussi a énormément changé.
Sans vouloir les adapter à nos goûts, quoi.
Et même, je pense aussi que beaucoup de Français ont énormément voyagé en Asie et donc connaissent aussi le vrai goût. Et on vit de retrouver ce goût ici en France.
Diana Chao, elle est sur toutes les plateformes sous le nom de Mama Li, L-Y.
L-Y,
voilà.
Ouais,
les exactement. Cours de cuisine, c'est quand?
Oui, c'est la meilleure nouvelle de l'année, ça, quand même. Hein. Mmh. Diana donne des cours de cuisine. Gyoza, Boboon,
dans le 19e.
Dans le 19e arrondissement de Paris, tous les week-ends, je vous apprends à maîtriser l'art du pliage.
Et on s'inscrit sur le site internet. Exactement. Je suis allée voir.
Et vous êtes tous des masters Chiaotzu, des masters Bao. Je vous apprends vraiment l'art du pliage.
Il faudrait faire un cours de riz cantonais, si je peux me permettre.
Ah, pourquoi pas? Mais c'est très simple. Hein,
pour rétablir la vérité, quand même.
Mais il suffit juste de regarder sur ma chaîne YouTube et je vous montre comment on fait.
C'est l'année du lapin. J'ai une résolution pour l'an 9 chinois. Dis-toi. Devenir docteur en gyoza.
Voilà. C'est beau.
On s'en parle.
On s'en parle.
Merci beaucoup. La suite d'RTL Morgan avec Jean-Sébastien Petit-Demange dans un instant qui nous emmène ailleurs.
À San Francisco.
À tout de suite sur RTL.
Dans un instant, RTL vous régale revient. RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Le dossier de ce matin dans RTL vous régale, c'était le nouvel an chinois, en fait l'année du lapin. Nous allons quitter les quartiers chinois de Paris pour pénétrer dans le Chinatown de San Francisco.
On y entre par un portique en forme de pagode. La Chinatown Gate a été offerte par la République populaire de Chine en 1969, en pleine révolution culturelle, à la diaspora chinoise. Et on découvre derrière cette porte le quartier chinois accueillant la plus grande communauté de Chinois hors de Chine. Le Chinatown de San Francisco compte près de 150 000 habitants. Ils sont arrivés à partir du milieu du 19e, d'abord pour fuir la famine qu'il y avait en Chine, et puis les retombées de la guerre de l'opium au moment également de la ruée vers l'or. Les communautés d'origine, elles ont été rejointes vers 1880 par leurs compatriotes venus pour construire les lignes de chemin de fer aux États-Unis et au Canada. Ils ont, du coup, reconstitué l'empire duquel ils venaient. Ce sont eux qui ont véritablement bâti la Californie. À la fin du 19e, 9 ouvriers sur 10 en Californie étaient chinois. Alors la plupart des maisons chinoises que l'on découvre aujourd'hui datent de la reconstruction post-tremblement de terre de 1906 et tout a pris depuis des allures très photogéniques, que ce soit sur les toits, dans les éclairages publics, dans les noms de rues. Un des anachronismes qui surprend quand on arrive là-bas, c'est la Old St. Mary's Church, la première cathédrale de San Francisco, construite en 1854 par des Chinois, mais sur le modèle d'une église gothique espagnole. Et à quelques rues de là, on peut découvrir toute cette histoire qui est passionnante dans le musée qui raconte l'histoire des Chinois aux États-Unis. Venant de Canton, pour la grande majorité, ils arrivaient après des conditions de voyage ignobles. Ils ont fait l'objet de lois discriminatoires et racistes jusqu'en 1943. Aujourd'hui, San Francisco est riche de cette importante communauté. Il faut surtout être conscient que 3/4 de ces gens sont natifs encore de Chine et toujours, la grande majorité viennent de Canton. Les immigrés, ils ont toujours conservé leur tradition culinaire. Mais quand même, en ouvrant des restaurants, on a vu apparaître des recettes. La chop suey, qui est un exemple significatif. Cette soupe de poulet aux légumes, elle apparaît en fait pour la première fois en 1910 à San Francisco. En Chine, c'est une soupe qui au départ était faite plutôt avec des abats de volaille hachés. C'était pas tout à fait présentable pour des Américains. Le porc motsu, qui est encore plus exemplaire. Ce porc émincé, poêlé, mélangé à des champignons avec une omelette et servi dans une tortilla. L'affaire, elle, elle date des années 50. En fait, ce que les Chinois ont conservé le plus longtemps pour eux, la perle des perles, c'est le dim sum. Originaire de Canton, ces dim sum, aujourd'hui, ils ont envahi le monde. Alors, pour le meilleur, souvent pour le pire, ces bouchées ravioles, ces rouleaux de pâtes de riz cuits à la vapeur ou frits, intégralement suaves, divins, ça peut être aussi fadas, patas et lourd. Faut savoir qu'à l'origine, ces dim sum constituent les petits déjeuners à Canton. C'est toujours le cas quand on y va. Et on sert ça dans des maisons de thé qui sont les plus réputées. Pour finir, enfin, on pense que les Chinois, les premiers à Paris, se sont installés dans le 13e arrondissement. Eh bien non. Le premier restaurant chinois à Paris, il a ouvert dans le quartier des Arts et Métiers. C'était au tout début du 20e siècle. Dans le Marais, des Chinois qui venaient de Wenzhou, au sud de Shanghai, c'était une toute petite concession française en Chine. Et c'est pour cela qu'il y a à nouveau une communauté chinoise qui s'installe dans le 3e arrondissement, dans le Marais, à Paris.
Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour le bilan de ce nouvel an chinois dans RTL vous régale.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Et je peux vous affirmer que depuis tout ce temps, on en a fait des émissions lunaires, mais celle-ci prend tout son sens. Le nouvel an chinois en long et en large avec Diana Chao qui était notre invitée. Il s'est passé des choses dans cette émission, Louise.
Bah, c'était le nouvel an lunaire sous le signe du lapin. Voilà, c'est peut-être la chose qui nous rassure le plus dans cette émission. Et surtout, on a appris la vérité sur le riz cantonais. Si vous n'avez pas entendu écouter le podcast de l'émission, votre vie va changer. Nous avons pris des cours de ravioli avec Diana, de poisson vapeur, de pâté impériaux, de boules de sésame. Ça nous donne des idées pour faire des repas généreux. Donc merci beaucoup Diana pour ça.
Avec grand plaisir.
Et il me semble qu'on fête le nouvel an demain.
On termine du coup les festivités avec le défilé du nouvel an.
Dans le 13e arrondissement.
Dans le 13e arrondissement entre l'avenue de Choisy et l'avenue d'Ivry. Il faut savoir que ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de défilé à cause du Covid, etc. Et donc là, ils vont mettre le paquet.
Ils vont lâcher les dragons.
Ils vont lâcher les dragons.
Si vous êtes du côté de Montauban jusqu'au 5 février, parce que c'est un partenariat M6 et RTL, vous avez le Festival des Lanternes, qui est un truc absolument incroyable, qui vient directement de Chine. C'est le Yangtze qui a été reconstitué, et c'est un parcours de nuit. C'est onirique, et je peux vous assurer que les gosses là-bas ont des yeux qui pétillent.
En tout cas, vive la cuisine asiatique, merci. Puis la semaine prochaine, c'est la Green Week du groupe M6. Alors on va vous donner des petits conseils pour ne plus rien gaspiller en cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Diana, c'était un bonheur de vous recevoir.
Merci beaucoup.
Vous êtes ici chez vous. Merci pour les boules de sésame. Merci et tout le reste est précieuses infos dans le podcast. Louise vous en parlait. On refait la télé dans un instant. Éric Dussart et Jade avec leur invité Sophie Davant. Je vous embrasse. Passez un délicieux week-end. À la semaine prochaine.